Bienvenue à tous dans le mag de l'été.
Je me suis souvent demandé pourquoi ce simple mot « nu » me bouleverse tant. Ce frôlement, ce feulement, cette finale en l'air, cette souplesse des lèvres s'avançant pour le dire comme pour un baiser. On dirait qu'il contient l'esquisse d'un frisson, une lueur sur la mer qui donne envie d'aller plus loin pour voir derrière l'horizon les ailes de la pluie, qui lave le visage de ses larmes amères. C'est un mot fou et flou comme le pubis d'un ange qui fait qu'on imagine tout et rien, le passage imperceptible d'une plume légère sur le rideau du visage, une rivière lente qui emporte vers plus de questions que de réponses. C'est un mot qui fond sur la langue, coule sur la chevelure, s'attarde sur la main, un mot qu'elle pourrait offrir, mais saurait-on le recevoir? Il faisait sombre et nœud de fièvre avant le dernier linge, et soudain là, lèvres, chevilles, seins, dos, hanches, sexe, nu.
Bonjour Eric Orsenna.
Bonjour.
Quel est le texte que vous venez de nous lire?
C'est un poème que j'adore, qui est d'Alain Duhaut. Oui, cet homme qui nous apprend la musique à la télévision, et c'est issu d'un recueil qui s'appelle « Où vont nos nuits perdues ?»
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Mag de l'été, le magazine culturel de vos débuts de soirée sur France Inter. Au menu aujourd'hui, une plongée littéraire dans le 18e siècle. Alors, on n'associe pas toujours spontanément les auteurs d'aujourd'hui à ceux du passé. Et pourtant, après avoir lu Beaumarchais, un aventurier de la liberté d'Eric Orsenna, qui paraîtra la semaine prochaine, le 14 août, aux éditions Stock France Culture, c'est l'évidence. L'académicien a trouvé ici son héros. Les deux hommes ont en partage le goût de l'aventure, des voyages, de la politique, de l'économie, de la littérature et surtout de la liberté. Le 18e siècle a inventé la liberté, nous dit Eric Orsenna, et de cette formidable aventure, Beaumarchais est l'incarnation même. Alors, choisir la liberté ne va pas sans dommage. Au 18e, comme aujourd'hui d'ailleurs, on verra que l'auteur du Mariage de Figaro a connu de nombreux déboires, mais c'est une vie, c'est le moins qu'on puisse dire, haute en couleurs qu'on découvre sous la plume d'Eric Orsenna. Un mouvement perpétuel, je cite, un feuilleton jamais ralenti, une folle journée, assurez-vous bien sur votre selle, ce récit est une cavalcade. Bienvenue dans le Mag de l'été.
France Inter. Le Mag de l'été. Anna Sigalevitch.
Pourquoi, Eric Orsenna, vous avez eu envie de nous faire entendre ce poème d'Alain Duhaut?
Parce que j'aime la poésie, parce que j'ai besoin de la poésie, parce que les besoins, la poésie nous redonne de la valeur aux mots, parce que la poésie nous apprend, nous réapprend à nous troubler, nous fait cadeau de vertige, en même temps de vérité, et parce que dans la chaleur de l'été, c'est bon d'avoir ces sortes de d'emportements maîtrisés.
Le Mag de l'été sur France Inter.
C'est Figaro qu'on vient d'écouter, le largot al factotum du barbier de Séville de Rossini par Claudio Abbado à la baguette et Placido Domingo dans le rôle de Figaro.
Rien moins.
Bah oui, parce que vous méritez bien ça quand même.
Ah bah, ça c'est France Inter, c'est la qualité France Inter.
Alors, le barbier de Séville, c'est un opéra dont Beaumarchais n'a jamais eu vent, hein, puisqu'il a été créé en 1816, donc 17 ans après la mort de Beaumarchais. C'est un opéra qui est d'une allégresse extraordinaire, hein, dont on entend là dans cette ère notamment toute la vitalité de son héros, Figaro. Alors, pour commencer, Éric Orsenna, qui est Figaro ?
Alors, Figaro, c'est le double, bien sûr, de l'auteur. C'est le double de Beaumarchais. Et c'est une histoire incroyable. Parce que Beaumarchais, qui était fils d'horloger, horloger lui-même, était en même temps musicien amateur, mais de très grand niveau, puisqu'il a été maître de musique des filles de Louis XV, rien moins. Donc, il a composé toujours. Mais en même temps, il écrivait des pièces de théâtre, des petites piécettes. Et puis, il avait annoncé partout qu'il était en train d'écrire un chef-d'œuvre. Et donc, il convoque tout le monde. Et il y a une réception qui est faite à la Comédie Française le jeudi à 19h. Et il est sifflé. Comme jamais aucun auteur n'a été sifflé. Tout le monde dit, en tout cas, une chose est sûre, jamais Beaumarchais ne sera capable d'écrire une belle pièce de théâtre. Donc il dit c'est parfait, il prend sa plume, son encre, il s'enferme chez lui et il réécrit tout. Et le dimanche à 17h, il redonne son barbier et c'est le chef-d'œuvre que nous connaissons. Donc à tous les gens, et notamment les auteurs, qui disent mais non, je ne veux pas retravailler, il faut leur donner l'exemple du barbier.
Vive la modestie, le barbier.
La modestie et l'acharnement.
Alors, à vous lire, Éric Orsenna, il semble évident que Beaumarchais est un personnage pour vous. Hein. J'oserais même le terme beaumarchaisien vous concernant. Est-ce que je peux oser ce terme ?
Ah ben, c'est comme j'ai une passion pour la vie. C'est vrai que le maître en vitalité diverse, le maître en rebond, le maître en diversité, le maître en gaieté qui disait toujours qu'il fallait tordre le cou au chagrin, c'est Beaumarchais. Et il a fait tous les métiers, il a rebondi 200 fois, il a été limite de l'honnêteté, ce qui j'espère n'est pas mon cas, mais il a traversé tout le siècle. Et comme j'avais écrit deux fois sur le XVIIe siècle, avec Le Nôtre et La Fontaine, j'avais écrit sur le XIXe avec Pasteur, et j'avais envie de raconter le XVIIIe. Et moi je suis écrivain, donc j'ai besoin, je ne sais pas faire des essais, j'ai besoin de quelqu'un qui incarne, et celui qui incarne le mieux le 18e, dans cette gourmandise effrénée de vivre, c'est Beaumarchais.
C'est Beaumarchais. Alors, d'ailleurs, comme Beaumarchais, Éric Orsenna, vous avez eu toujours d'autres métiers que celui d'écrivain pour que, dites-vous, le livre soit le lieu de la liberté.
Alors, j'ai su dès l'âge de 7-8 ans que j'avais envie de raconter des histoires. J'avais d'ailleurs lancé un journal familial et ayant déjà tout compris des mécanismes de la presse, je forçais ma famille à s'abonner en leur disant « si vous vous abonnez pas, je dirai du mal de vous ».
À votre propre journal.
Donc, dans mon propre journal. Donc, j'avais déjà tout compris du chantage de la presse et des médias. Et donc, mais je m'étais dit que j'allais pas être prof de ma passion. Donc, j'allais pas être prof de lettres. Donc, j'ai été prof d'économie, c'est-à-dire pour essayer de me renseigner sur le monde, quitte après à le raconter. Voilà. Et puis, c'était la liberté, parce que quand j'entends des gens qui disent « je vais tout arrêter pour me consacrer à l'écriture », j'ai peur pour eux.
Il y a une pesanteur terrible, du coup.
Oui, parce qu'on est obligé de produire. Moi, pour l'instant, je produis parce qu'il y a des tas de choses qui sont intéressantes. Et puis, il y a des moments où je peux m'arrêter pendant 5-6 ans et il n'y a pas de problème.
Alors, on sent, Éric Orsenna, le plaisir et la gourmandise, hein, vraiment, vous employiez ce terme tout à l'heure, dans la façon dont vous avez écrit ce livre, vraiment le plaisir à régner dans toute l'écriture de cet ouvrage sur Beaumarchais.
Oui, parce qu'il invente tout le temps, il a un culot invraisemblable. Parce qu'en même temps, il a écrit ses deux chefs-d'œuvre absolus et puis des autres pièces qu'on peut vraiment oublier. Oui. Il était financier limite, c'est-à-dire c'est une sorte de tapis en même temps. En même temps, c'est lui qui... C'est vraiment le roi du en même temps. C'est oui, le roi ça, du
vous
en même
le
temps.
Dites comme une autre personne qui nous
oui,
gouverne en ce moment.
Oui, comme une autre personne qui nous gouverne en ce moment, qui pensait qu'on peut tout faire en même temps, et lui, il fait en même temps.
En même donc, temps. Et vous parlez de ça très bien, je trouve, de l'ambivalence, en effet. Donc, Beaumarchais était un opportuniste réel, et en même temps, si je puis dire, oui. Il avait de vraies valeurs et de vraies convictions.
Et puis,
il n'était pas asservi.
Oui, non, bah, jamais. Et puis, de temps en temps, ça lui tombe sur le coin du nez. Bah, y a une histoire qui me ravit, c'est qu'il apprend en 1787 que l'administration va déplacer la Bastille. Imaginez. Donc il se dit formidable, belle opération immobilière en perspective. Donc j'achète un terrain sur l'actuelle place de la Bastille. Et donc il fait
au
des travaux.
Au début du boulevard Beaumarchais.
Attends. Il fait des travaux gigantesques. Il fait un palais. On dit que l'équivalent c'est à peu près 10 millions d'euros. Et imaginez-vous que les travaux s'achèvent en avril 1789. Donc évidemment, quand il y a des émeutes partout dans le quartier, il est envahi, il est détruit, etc. C'est lui. Et il retrouvera son palais bien amoché 2 ans plus tard. C'est tout lui ça. C'est-à-dire il a un culot insensé. Il bondit comme un fauve sur les opportunités. Parfois, ça tombe bien et parfois, moins bien.
Alors, est-ce que d'écrire sur un personnage aussi flamboyant que Beaumarchais, ça induit un style particulier, une écriture particulière ?
Alors, c'est la bonne question parce que, au fond, on ne peut pas écrire sur ce personnage sans essayer de l'imiter. Donc, toute proportion infiniment gardée. Comment dire ? On se met à la place d'eux. Bien sûr, on essaye de se mettre à la place. Donc, on trouve des mots insensés qu'on invente. Par exemple, il utilise beaucoup ce mot qui est peu utilisé à part dans le Berry pour faire l'amour, qui s'appelle guerluchonner.
Guerluchonner, oui. Oui, il y a tout un chapitre qui s'appelle guerluchonner.
Et puis c'est mon métier à l'académie. Moi, je suis obligé de donner du sens aux mots.
Alors, qu'est-ce qu'un guerluchon ?
Eh bien, un guerluchon, c'est l'amant d'une femme mariée. Il n'y en a pas parmi vos auditrices, vos auditeurs.
Ah ben non, et
les auditeurs, ben non c'est impossible. On est dans un service public, ben c'est-à-dire oui. un respect
de
absolu de la morale. De
bien
très
sûr.
Haute moralité. Mais enfin, ça peut, chez d'autres radios, ça peut exister. Et donc, c'est l'amant d'une femme mariée. Et aussi, ça peut dire qu'il y a un petit élément de rémunération, quelque chose comme ça, etc. Donc voilà. Alors, au XVIIIe siècle, guerluchonner, c'était surtout utilisé pour les relations qu'il y avait entre les dames du corps de ballet et puis des gens d'un certain âge, très riches, et qui venaient en aide, pourrait-on dire, à
oui,
ces dames du corps de ballet. Des mécènes intéressés. Orientés et intéressés. Et donc, il y a des mots comme ça sans arrêt, mais il y a surtout une sorte de verve incroyable. Et ça sera toute sa vie. Imaginez que il a 17 ans. Il est chez son père apprenti horloger. Et il découvre un mécanisme qu'on appelle l'échappement qui permet de stabiliser les engrenages. Et il montre cette trouvaille à un des grands clients de son père qui est horloger du roi. Et l'horloger du roi lui pique la trouvaille. Son père lui dit calme-toi, c'est normal, tout ça. Pas du tout.
Pas du tout.
Il est batailleur. Et il va mobiliser tous les journaux de l'époque en disant c'est moi l'inventeur. Ce qui fait que, au bout d'un an de bataille, l'Académie des sciences dira c'est ce jeune blanc-bec de 17 ans et demi qui a trouvé et pas l'horloger du roi. C'est lui le culot. Et on parle sans arrêt de Lafayette qui aurait apporté beaucoup aux insurgés et aux insurgents américains. Oui. Pour se libérer de la tutelle des Anglais. Pas du tout, c'est lui. Parce que la France ne voulait pas ouvertement s'attaquer à l'Angleterre, très puissante, surtout sur la mer. Donc, on lui dit, si ça vous intéresse,
allez-y.
Vous le faites vous. Donc, il va être armateur. C'est-à-dire, il va armer 40 bateaux. Et puis, il ne sera pas payé. Parce que, évidemment, les Américains disent, écoutez, pour l'instant, on est en pleine guerre.
On verra plus tard.
Et puis, le plus tard, on sait très bien, les dettes, les promesses n'engagent que ceux qui y croient.
Alors, en effet, il est batailleur et des déconvenus, finalement, il arrive à en faire quelque chose qui a une forme de panache. Il y a notamment cet épisode que vous relatez qui, je trouve, est très intéressant. Quand il est ruiné dans des histoires d'héritage, d'un dénommé Paris, quand ce Paris décède en 1770, ils n'ont pas signé les bonnes choses, donc Beaumarchais rentre dans une bataille terrible avec les héritiers de Paris ou Paris, je ne sais pas comment.
Paris. Oui.
De Paris. Et évidemment, ça va être catastrophique, mais de ça, il fait quelque chose. Il écrit les mémoires contre Goezman. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, qui se vend extrêmement bien, je crois, 10 000 exemplaires en 3 jours, hein, c'est ça?
Alors, c'est de Beaumarchais, on ne connaît au fond que deux pièces, c'est-à-dire le barbier et puis le mariage. Et on ne connaît pas les autres textes. Et c'est quelqu'un qui adore être en procès. C'est-à-dire que quand il considère qu'il a été volé, ce qui arrive souvent parce qu'il vole un peu lui, mais enfin il déteste être volé lui-même, donc il entre en procès. Et il entre en procès, il fait des mémoires. Et ces mémoires sont des chefs-d'œuvre. Parce que, évidemment, il est d'une méchanceté incroyable, d'une précision incroyable, il a cette verve inouïe, il invente des choses incroyables, donc c'était vraiment le feuilleton. C'était Netflix. C'est-à-dire, les batailles de Beaumarchais, les procès de Beaumarchais, c'était Netflix. Parce qu'on savait que, à peine avait-il fini un premier mémoire, qu'un deuxième, un troisième, un quatrième arriverait. Et il rend ridicule, évidemment, les puissants. Ce qui fait que, on est face à un personnage qui adore la société dans laquelle il vit. Il achètera un titre de noblesse. Il adore être riche. Il adore fréquenter les puissants. Mais en même temps, il peut pas s'empêcher, encore en même temps, il peut pas s'empêcher de dire les deux, trois phrases qui tuent. Et vous savez que sa pièce, Le mariage de Figaro, sera interdite dans l'Europe entière pour deux, trois phrases.
Oui, absolument.
Et c'est ça c'est un formidable avocat. C'est pour ça que dans le livre, comme j'ai été longtemps conseiller d'État, je dis aux avocats, mais
oui, il y a trois conseils. Donnez-nous ces trois conseils.
Oui. Bah, les conseils, c'est vous avez le droit de dire je. Oui. Et surtout, plutôt deux, c'est et surtout n'ennuyez pas, parce que imaginez ce que c'est qu'être un juge. Vous entendez du matin jusqu'au soir des affaires sinistres. Quand vous avez quelqu'un, un avocat, qui va vous enchanter, qui va vous entraîner, qui va vous faire lire, quand vous allez être, et qui va tellement se tordre de rire, tellement c'est méchant, bah vous allez gagner votre procès.
Bah, donc, il le perd pourtant.
Bah, il le perd parce que c'est pipé. C'est pipé parce qu'il est pas puissant. Et l'autre est un comte, tout ça, de haute noblesse, de vieille noblesse, donc tout ça. Il le perd au tribunal, mais
il
le gagne dans la rue.
De façon populaire, bien sûr.
Il le gagne dans la rue, et c'est ce qu'il veut. Parce que le théâtre, c'est pas seulement ces deux pièces géniales, c'est ses mémoires. Et je vous garantis que vous prenez ces mémoires, et si ces mémoires vous ennuient, je vous les rembourse.
Alors, il y a une bataille qu'il a menée qui a été très importante. C'est justement au moment du Barbier de Séville, quand le Barbier a atteint la 32e représentation en 1777. Là, il se rend compte qu'on lui donne pas grand-chose et il décide de commencer à mener une bataille farouche qui va bouleverser en fait la vie des écrivains. Cette bataille, ce sera la lutte pour le droit d'auteur.
Monsieur de Beaumarchais.
Messieurs. De quel droit reprenez-vous le barbier ?
Cette comédie nous appartient, monsieur.
C'est intéressant, expliquez-moi cela.
La pièce était tombée après 2 jours sans recette. Elle nous revenait de droit, elle revenait de droit au comédien.
Cette pièce, je l'ai refaite en 3 jours. Elle a connu un succès sans précédent. Vous me devez le 9e de la recette, soit 3225 livres.
Mais vous perdez la raison.
Vous allez perdre un procès, car les auteurs ne sont plus disposés à vivre de vos aumônes. La société que nous venons de créer vous obligera à reconnaître nos droits d'auteur. Au revoir, messieurs.
Droit d'auteur, où allons-nous ?
Pascal Regard, vous êtes le directeur général de donc la SACD, hein, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Que doivent pour vous les auteurs à Beaumarchais aujourd'hui ?
À Beaumarchais, ils doivent un principe très simple, c'est uni mais libre. C'est-à-dire, on est plus fort quand on est uni. Mais naturellement, on doit rester libre pour défendre sa création. Donc, ce qu'a inventé Beaumarchais, c'est non seulement le droit d'auteur, mais c'est ce qu'on appelle la gestion collective, c'est-à-dire le fait pour les auteurs de se rassembler dans des sociétés et de se réunir pour délivrer les autorisations. Car un auteur tout seul, face aux grandes puissances des chaînes de télévision ou des plateformes Internet, il serait... dans beaucoup de cas, dépouillés de ses droits. Tandis que quand les auteurs sont réunis dans des sociétés qui le dirigent, puisqu'au fond, ce sont eux qui ont une part de ces sociétés. Ce sont des genres de coopératives.
Oui, d'actionnaires. Ouais.
Et, voilà, ils sont actionnaires, par exemple, de la SACD ou de la SACEM ou de la SCAM. Eh bien, ils sont naturellement plus puissants parce qu'au lieu de représenter quelques œuvres, leurs œuvres, ben, c'est tout un répertoire dont les diffuseurs ont besoin. Voilà. Donc ça donne une force beaucoup plus grande aux auteurs pour négocier. Le système, d'ailleurs, par des moyens différents, est un peu équivalent aux États-Unis. Aux États-Unis, le droit propre de l'auteur est moins fort parce qu'il n'existe pas ce qu'on appelle le droit moral.
Mais les syndicats sont très puissants.
Grâce à leur système de syndicats, grâce à des luttes très dures, des grèves.
De grèves très fortes, bien sûr.
Les auteurs américains, réalisateurs et scénaristes ont obtenu des droits extrêmement importants et d'ailleurs, à la limite, même plus forts que ceux qu'ils ont en France.
Vous êtes sur France Inter, on vient d'entendre d'abord Fabrice Luchini dans le film d'Edouard Molinaro, Beaumarchais, l'insolent, inspiré de la pièce de Sacha Guitry, et Pascal Rogard qui est donc le directeur de la SACD. Donc Beaumarchais a été vraiment est parti en mission, en croisade, pour lutter contre l'emprise des comédiens qui ne reversaient pas d'argent aux auteurs jusqu'au XVIIIe siècle.
Oui, parce que quand on voit la situation de Molière et surtout de Corneille, qui avait écrit des pièces qui avaient eu des succès incroyables et qui est mort dans la misère. Oui, il n'avait plus rien. Puisque le pouvoir, c'était pas les plateformes comme maintenant. Le pouvoir, c'était la Comédie française. Donc c'est eux, c'était les acteurs qui s'étaient unis pour piquer au fond les droits des auteurs. Et donc ce qui est intéressant, c'est que Beaumarchais, c'est le seul riche là-dedans. Parce qu'il n'a pas du tout besoin de ses droits d'auteur. Ses droits d'auteur représentent très très peu de ses revenus. Et alors, il réussit plus ou moins, parce que chacun sait que les auteurs sont individualistes, il réussit à les unir. C'est ce que dit très très bien Pascal Rogard. C'est-à-dire que si on n'est pas unis, on est absolument laminé par les puissances. Et alors, la pertinence, l'actualité du combat de Beaumarchais, c'est maintenant. Parce que vous voyez bien que les GAFA, ils adoraient ne plus avoir à payer,
à reverser
des droits d'auteur. Et donc, c'est très intéressant de voir cette bataille. Parce que à chaque fois, c'est des questions d'aujourd'hui. C'est ça qui m'a intéressé aussi.
Oui,
c'est-à-dire,
Il est toujours moderne.
Pourquoi? Parce que le XVIIIe siècle est vraiment le siècle de la modernité. Et pourquoi, au fond, cette formule du en même temps, bien connue et lancée par Emmanuel Macron, c'est en fait la devise du XVIIIe siècle. Parce que avant le XVIIe, par exemple, le XVIe et surtout le XVIIe, on devait choisir. Quand on était dans le théâtre, on n'était pas dans le roman. Quand on était écrivain, on pouvait pas être chef d'entreprise. Quand on était agriculteur, on pouvait pas être financier. Mais si, pourquoi pas? Vous comprenez
pourquoi pas, mais en même temps, on lui a aussi beaucoup reproché à Beaumarchais. Il a eu du mal, malgré tout, à trouver sa place, même si il a eu de grands succès, mais à exister réellement, ça semblait pas si simple.
Alors là, pardonnez-moi, mais c'est toujours la même chose.
Ouais.
C'est-à-dire, on voit aujourd'hui, parce que, au fond, quand vous êtes écrivain, vous êtes entre deux périls. Soit, comme à Patrick Modiano, que j'aime infiniment, on dit, vous faites toujours le même livre. Où on dit, ce qui est mon cas, arrête de sautiller, tu touches à tout, etc. Et alors, il y a à cette phrase, Jean-Luc Godard répondait magnifiquement, touche à tout, pas du tout, je suis touché partout. Et ce 18e siècle, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le savoir qui l'emporte sur la domination. C'est pour ça que...
Vraiment le siècle de l'émancipation.
C'est pour ça que c'est un aventurier de la liberté.
Alors, je voudrais qu'on revienne, Eric Orsenna, sur l'histoire de l'argent, en fait. Parce que c'est très important, l'argent chez Beaumarchais. Mais l'argent comme outil de liberté et de conquête, pas l'argent pour l'argent. Et je dois dire que je vous ai entendu dans un documentaire récemment d'Elisabeth Lanchner qui s'appelle La richesse, qui est passé le mois dernier sur la chaîne parlementaire, dans lequel vous dites que l'argent est le meilleur des serviteurs et le pire des maîtres. L'argent ou le substitut à l'argent qui est la notoriété.
Alors, regardez ce qui se passe quand vous n'avez pas d'argent. Et c'est le cas d'une grande majorité d'entre nous. Vous êtes prisonnier de votre vie même. Mais si votre but dans la vie est de faire de l'argent, comme on dit, faire de l'argent, et ne faire que de l'argent. Des gens qui disent, c'est mon premier million, mon centième million, etc. Mais vous êtes totalement prisonnier aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous êtes obligé d'être entre ces deux périls, le péril de pas en avoir et le péril de le mettre trop haut, premièrement. Mais deuxièmement, l'argent, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'investissement. Si vous n'avez pas de crédit, si on ne vous fait pas de crédit, vous ne pouvez pas acheter un appartement, mais vous ne pouvez pas lancer une entreprise, vous ne pouvez pas faire un film, vous ne pouvez pas imprimer un livre. Donc, l'argent est un moyen et sûrement pas une fin. Donc, c'est ça qui est intéressant chez lui. Alors, il s'en sert parce qu'il aime bien le luxe. Il aime bien s'occuper le mieux possible de sa famille, parce qu'il a un sens de la famille incroyable, mais il se lance dans des affaires insensées. Et j'ai découvert que dans ce monde où on invente le mot d'entrepreneur, qui jusqu'à une date assez récente était très très mal vu en France, ouais. Hein, on l'appelait les vulgaire. Patrons, patrons, puis même pire que vulgaire. Imaginez que c'est Beaumarchais qui va être le principal actionnaire de la première société parisienne de distribution d'eau. Donc, grâce...
C'est incroyable.
C'est l'ancêtre de Suez, de Veolia, de la Sorgue, etc. C'est incroyable. Il fait ça aussi...
Un système de pompe pour
que
l'eau
puisse
être distribuée.
Pour monter dans les étages. Donc, c'est ça l'affaire. C'était... Parce que le 18e, c'est pas seulement la liberté par rapport à la religion, la liberté du savoir, la liberté politique, c'est la liberté économique. C'est-à-dire, c'est vraiment l'entreprise qui commence. Et il est au cœur de ça.
Ricard Sena, le temps file hein, quand vous nous parlez de Beaumarchais. Il faut quand même qu'on évoque son œuvre la plus importante, hein, La folle journée ou Le mariage de Figaro, deuxième volet de la trilogie de la famille Almaviva, dite aussi trilogie Figaro. Alors vous nous disiez que c'est pour quelques phrases que l'œuvre avait été censurée, beaucoup aimée par Marie-Antoinette, mais exécrée par Louis XVI.
Il y a une scène incroyable où la dame de compagnie de Marie-Antoinette, qui est en même temps lectrice, lit devant le roi et la reine la folle journée. Imaginez ça. Imaginez, ils sont trois et ils lisent. Et Marie-Antoinette est ravie et le roi furieux. Il est furieux pour deux, trois phrases. D'abord pour l'insolence générale, parce que c'est un grand insolent. Évidemment. Et il est fou de rage, le roi, parce que il dit, à un moment donné, ce que dit le Figaro au comte, son patron, il lui dit, au fond, vous êtes qui, vous? Vous êtes contenté de naître, au demeurant, homme ordinaire. Et alors ça, c'est l'effondrement de tout le système.
Bien sûr, hein.
Si l'aristocratie n'est rien, si on respecte pas, si, au fond, c'est seul le mérite personnel qui permet d'être reconnu, à ce moment-là, tout le système de l'Ancien Régime s'effondre. Et c'est pour ça que la pièce a été interdite dans l'Europe. Et c'est pour ça que, pour que Mozart puisse mettre des notes, c'est le librettiste Da Ponte qui va raboter les phrases les plus insupportables.
Anna Sigalevitch, le Mac de l'été, sur France Inter.
Non trovo pace, notte e mi, ma pure mi.
Vous êtes sur France Inter, nous évoquons votre biographie très personnelle, Éric Orsenna de Beaumarchais. Beaumarchais, un aventurier de la liberté qui paraîtra dans quelques jours, le 14 août, chez Stock, aux éditions Stock, avec France Culture. Alors, nous venons d'écouter l'air de Chérubin dans les Noces de Figaro, par Joyce DiDonato avec Kazushi Ono à la tête de l'orchestre de l'Opéra National de Lyon. Chérubin, nouveau personnage introduit dans la famille Almaviva.
Oui, nouveau personnage, parce que l'histoire du barbier qui passe aux noces, c'est aussi l'histoire de ce personnage qui me bouleverse, qui est le personnage de la comtesse. Parce que
qui est Rosine.
Elle est Rosine. Elle est,
la pupille de Bartolo, une jeune fille prisonnière dans le barbier.
Et le comte est fou d'elle, il l'a vue, et c'est le désir, et puis le temps passe. Et voyez, c'est aussi quelque chose sur le temps. Parce qu'on a dit en même temps, mais aussi, c'est le temps qui passe qui est en train de... On sait bien que l'Ancien Régime va vers sa fin. Et on sait bien que une ancienne société est en train de disparaître. Et en même temps, on voit que la capacité de séduire de la comtesse diminue, en tout cas, dans le regard de ce crétin de comte.
De comte Almaviva, oui. Alors, Mozart, donc en lisant le mariage de Figaro, voit le sujet idéal de son prochain opéra. Il va voir le librettiste Lorenzo da Ponte. Ce sera leur première collaboration, qui deviendra ensuite la trilogie da Ponte. Mais là, c'est plus avec Beaumarchais, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve très fascinant dans les Noces de Figaro, c'est ce que vous disiez sur le temps qui passe, sur la cruauté que Mozart a mis en musique de façon incroyable, parce que c'est une œuvre, un opéra qui est à la fois extrêmement sensuel, extrêmement cruel, et en même temps avec du sourire et de la gaieté et une vitalité immense de bout en bout.
Mais ça, c'est Mozart, parce qu'il y a un côté crépusculaire, mais ce n'est pas le crépuscule des dieux, ça n'a rien à voir avec les grands flonflons comme ça, wagnériens. C'est toujours, on sait bien qu'il y a une nostalgie. Et ça, même Chérubin sait que ça ne va pas être si formidable que ça. Et donc, il y a une sorte d'élégance... non pas du chagrin, mais une sorte d'abandon comme ça.
Le cœur serré,
Le cœur, avec Mozart, le cœur est toujours serré. Et il y a cette gaieté dont on sent que c'est pas une naïveté, c'est une politesse. Et au fond, on est tous comtesses, parce qu'on sait bien que le temps va passer. Et alors, ce qui est l'œuvre absolue pour moi, le chef-d'œuvre absolu, c'est quand une aventure personnelle, celle de la comtesse, est exactement l'écho de l'aventure du siècle. C'est-à-dire que quelque chose va s'arrêter.
Pourquoi, selon vous, Éric Orsenna, toutes les pièces de Beaumarchais ont été mises en musique ?
Parce qu'il était musicien, parce que il y avait, vous savez, la musique est la gaieté supérieure.
Quand les mots ne peuvent plus,
la musique commence. Et la musique a cette légèreté. La musique c'est une danse des mots. On a l'impression, quand la musique arrive, que on est comme des grands danseurs. Pour moi, il y a l'écriture, la danse et la musique. Dans cet ordre-là.
1, 2, 3.
3, 2, 1.
1, 3, d'accord. Éric Orsenna, comme Beaumarchais, vous aimez parcourir le monde. Vous vous êtes beaucoup intéressé à l'Afrique. Vous avez beaucoup navigué aussi. Je vous propose d'écouter une femme avec qui vous avez navigué et écrit. C'est Isabelle Autissier. Isabelle Autissier, comment est né le désir de voyager ensemble en Antarctique avec Éric Orsenna ?
L'idée, c'était d'aller à la fois sur les traces en péninsule d'un paysage, sur les traces de la vie antarctique, en particulier de la vie animale, mais aussi, surtout, sur les traces de tous les grands personnages qui ont fréquenté ces lieux, Charcot, Nordenskjöld, tous ces gens-là, Shackleton, bien sûr, et puis aussi des gens qui aujourd'hui y vivent, c'est-à-dire quasi exclusivement des scientifiques. Donc voilà, on avait cette même envie d'aller voir, d'aller à la rencontre à la fois des paysages et des gens.
Quel compagnon de voyage vous avez découvert, Isabelle Autissier ?
Éric, il s'est super bien adapté. C'est la première chose que j'ai découvert en lui, c'est que c'est un formidable compagnon de voyage parce que il s'adapte tout le temps, il trouve tout fantastique et il est toujours content. Donc ça, c'est vraiment bien en voyage, parce que bon, bah voilà, dans un bateau comme ça, comme le mien, c'est pas toujours facile, il peut faire mauvais, ça bouge, il fait froid. Mais Eric, il était toujours complètement rayonnant, il s'intéresse à tout, et ça aussi, c'est vraiment une caractéristique que j'ai découvert chez lui. Il la ramène pas, comme on dit, il fait pas étalage de tout ce qu'il connaît, et pourtant, il en connaît. Mais il est toujours voilà, toujours prêt à découvrir, toujours prêt à comprendre, toujours prêt à rencontrer des gens, à se faire expliquer des choses. Et on passait, on faisait le quart tous les deux ensemble. On était six à bord, donc il y avait trois quarts de deux. Et Eric et moi, on était ensemble et bah, on discutait tout le temps. On parlait, voilà, de l'Antarctique, de l'environnement, de ces personnages historiques qu'on allait à la découverte desquels on allait. Et puis il racontait plein de trucs. Et puis des fois, il me faisait la lecture aussi pendant que j'étais à la barre. Enfin, voilà.
Quelle question vous aimeriez poser à Eric Orsenna ?
Pour revenir sur sa curiosité, quel serait l'endroit, la chose, l'époque, le personnage qu'il aimerait le plus découvrir aujourd'hui ?
La réponse est claire, ça serait Marie Curie.
Marie Curie ?
Marie Curie, parce que j'aimerais qu'elle m'explique son courage de découvrir, son courage de vivre, comment elle a avancé dans cet inconnu, comment elle a osé en même temps être une femme, comment j'ai un respect infini pour cette femme. Mais je dois dire à ce que je dois à Isabelle Autissier, parce que moi je suis un économiste de formation, donc j'étais un peu intéressé aux questions de la nature, mais pas tant que ça. Et donc elle m'a vraiment fait comprendre ce que ça voulait dire. Ce que c'était la nature, que au fond c'est un partenaire. C'est un partenaire. Et qu'il y a une continuité du vivant.
Alors vous êtes très curieux, Eric Orsenna. Voici des propositions culturelles que nous avons choisies aujourd'hui.
Tous les artistes que j'ai engagés, je les ai prévenus qu'à tout moment, ils seraient appelés à travailler au bar, à vendre des produits dérivés, déchirer les tickets. Parce que c'est quelque chose qui est dans un état d'esprit où effectivement le théâtre du peuple manque de moyens. Donc on est obligé d'inventer des choses pour le faire vivre, qu'on soit amateur ou professionnel. Oui.
À Bussan, le Théâtre du Peuple, situé au cœur du massif des Vosges, propose dans un lieu à couper le souffle un théâtre pour tous. Au programme de ce mois d'août, La vie est un songe de Calderon, Moi, Bernard de Bernard-Marie Coltès et Suzy Stork de Magali Mougel. Après la rétrospective qui a marqué l'été 2018, on retrouvera sur grand écran 10 films d'Ozu, 10 chefs-d'œuvre du maître japonais en version restaurée. Du noir et blanc à la couleur, avec notamment Printemps tardif, Été précoce, Le goût du saké ou en voyage à Tokyo, 10 grands classiques à découvrir ou à revoir à l'infini.
Le Mac de l'été sur France Inter.
Eric Orsenna, est-ce qu'il y a des choses qui vous tentent parmi ces suggestions ?
Tout.
Tout ?
Tout me tente, parce qu'au Zoo, moi, je n'ai pas vu le tiers de ce qui va être présenté. J'ai une passion des liens entre les lieux et la culture, parce que la culture enchante les lieux qui, en retour, enchante la culture. Donc, je suis fou d'écho comme ça, vous voyez, ce genre d'écho comme ça.
Eric Orsenna, est-ce que vous vous souvenez de votre premier émoi culturel ?
Alors, oui, ça, j'étais à l'église, parce que j'allais être enfant de chœur, je n'étais pas encore. J'étais, je me souviens très bien, cathédrale de Quimper, et donc ma famille, très religieuse, m'emmenait, évidemment. Je vais avoir 6 ans, et brutalement, des notes sont arrivées à l'orgue, et c'était la cantate 147 de Bach. Vraiment, des larmes viennent, parce que c'était... Je me suis dit, c'est pas possible ce qui arrive là. C'est pas possible, tout est là. Et j'ai appris après, on m'a donné le titre. Et c'est devenu ma morale. Sauf que je ne suis pas croyant.
Quel est ce titre ?
Jésus que ma joie demeure.
Ouais.
Et donc, Jésus, je ne sais pas à qui je m'adresse. Mais je m'adresse à la vie, en fait. La vie, oh la vie, que ma joie demeure. Et je trouve ça d'une incroyable force, d'un incroyable investissement, de dire que, quoi qu'il arrive, qu'en soi, il y a la joie. Et la joie, c'est pas le plaisir. La joie, c'est pas le bonheur. La joie vous agrandit. La joie, c'est pas un centimètre carré de vous-même. La joie, c'est plus que vous. Et donc, c'est une sorte de vague qui vous prend. Et comme quand on est en surf et, ou en bateau un peu rapide, vous êtes emporté par une vague et faites tout pour rester emporté par cette même vague. Et donc, tout était réglé à 6 ans.
On va vous proposer, Eric Orsena, un voyage musical au Mali par le groupe Touareg Tinariwen, playlist d'été de France Inter.
Labido ti se ta sajra hastadwi جالت عشري نبات ديفا ويضا نبك بارود
تقد عين الزد تقد ويطرق دينا بتوتي سيدا سجر
C'était le groupe Tinariwen qui vous plaît beaucoup, je crois.
Ah non, mais moi, je suis malien. Je suis malien. Il y a des mille histoires de Mali. J'étais, je sais pas, c'est mon autre pays, le Mali. C'est mon autre pays. Imaginez ce qui s'est passé. La société des chemins de fer maliens pouvait pas investir. Donc, les trains arrivaient sans arrêt en retard. Donc, ils ont eu l'idée de créer le buffet de la gare Bamako avec les meilleurs musiciens, où il y avait Salif Keïta, Mori Kanté, etc. Sauf que les gens, ils voulaient plus partir. Parce qu'ils écoutaient la musique. C'est ça le Mali. Mmh. C'est ça le Mali.
On peut rien prévoir.
Et puis en Pateba.
Ouais, c'est ça.
Et puis
il y a une notion,
puis,
de, enfin l'idée
Pateba,
du présent.
Et puis,
ouais.
et puis voir ce pays qui était jusqu'à une date encore récente, le pays même de la diversité, qui est maintenant le pays
Vous
du déchirement.
Se promener librement,
mais vraiment, je suis accablé de ce qui se passe.
C'est maintenant le moment de notre portrait chinois. Est-ce que vous êtes prêt et concentré?
Puisque j'ai donné ma dose au Mali, je suis prêt à devenir chinois.
Très bien. Alors, Eric Orsena, si vous étiez un mot.
Préférence.
Quelle mort aimeriez-vous, hors Beaumarchais, rencontrer?
Une dame cantatrice et me glisser dans sa voix.
Aimeriez-vous posséder la mémoire absolue?
Mais alors, absolument pas. J'adore l'oubli. Parce que ça permet de réinventer. Et c'était l'occasion de grandes discussions avec François Mitterrand, qui me disait « Est-ce que vous exercez votre mémoire ?» Alors je lui disais l'inverse, je lui disais « J'exerce mon oubli. » Et je crois que c'est ce jour-là où il a décidé de jamais me nommer ministre.
Oui, parce que Robert Badinter, lui, apprend un poème tous les jours, encore aujourd'hui. Hein.
Oui,
un petit
mais
bout de poème.
Chacun
lui
son truc.
Ministre.
Chacun son truc. Moi, j'aime les surprises.
Craignez-vous l'esprit de sérieux?
Je peux pas, je sais pas ce que c'est.
Lorsque vous rencontrez quelqu'un en slip de bain et que vous ignorez tout de ses conditions de vie, à quoi reconnaissez-vous, au bout de quelques mots tout de même, le riche ?
Au prix de sa montre. Parce que c'est très étonnant, plus les gens ont fait fortune vite, plus ils veulent une montre chère.
Quel est votre musicien préféré, Eric Orsenna ?
Oh, c'est impossible de dire, c'est vrai ce que j'ai dit, le mot préféré est préféré, mais en fait je suis incapable de préférence. C'est-à-dire que la préférence, c'est quelque chose qui est impossible. Moi je suis extrêmement panthéiste comme ça, donc comment dire que je préfère Bach à Couperin ? Je peux pas dire que je préfère Bachung à la limite, oui, à Schubert, pourquoi pas, c'est ça. Ça dépend tellement des moments, il me nourrit tellement, il m'élève au sens, voilà.
De quoi êtes-vous reconnaissant, Eric Orsenna ?
De tout. Je suis incroyablement stupéfait de la confiance. C'est-à-dire, tous ces gens qui, tout au cours de ma vie, m'ont dit « tu peux le faire » et qui m'ont rendu plus grand que je n'étais.
Quelle est votre devise favorite ?
Écrire et naviguer. Et puis, au fond... Être curieux, c'est prendre soin, parce que curiosité vient du latin cura, qui veut dire prendre soin, la cure, comme dans la cure. Donc, être curieux, c'est prendre soin de soi-même et donc du monde.
On vient d'apprendre, vous l'avez entendu dans le journal de 18h, la mort de l'écrivaine Toni Morrison, prix Pulitzer en 1988 pour Beloved et première femme afro-américaine à recevoir le prix Nobel de littérature en 1993, la seule à ce jour. Toni Morrison, depuis son premier roman en 1970, L'œil le plus bleu jusqu'à Délivrance, son dernier, paru en 2015, n'a eu de cesse, par sa langue poétique et incisive, de se battre contre les discriminations faites aux Noirs. On écoute cette figure majeure de la littérature du XXe siècle, c'était en 2012, au micro de Laure Adler.
An effort to be extremely welcoming to a reader.
Mon objectif, c'est d'accueillir le lecteur.
Taking the reader to another place or level,
d'accompagner le lecteur à un niveau plus élevé. Et moi, je sais que le lecteur pourra y arriver sans en être forcément conscient. C'est ça qui m'importe. Je n'ai que 26 lettres à ma disposition.
That's it, and I have to work within those confines.
Et voilà donc les limites de mon travail, mais il faut que je me renouvelle sans cesse.
But I never want to compete with language.
Mais je ne veux jamais concurrencer la langue.
I think it's another thing.
Il y a des écrivains qui écoutent la musique ou qui prétendent être inspirés comme ça. Je n'essaye pas, moi, d'être musical dans mon expression d'écriture. La langue, c'est la paume de la main qui doit tenir le reste du monde.
La langue, c'est la paume de la main qui doit tenir le reste du monde. La beauté de la sienne restera gravée dans le cœur de ses lecteurs. Merci beaucoup Eric Orsenna d'avoir été avec nous dans le MAG de l'été. C'était une immense joie de vous recevoir. Je rappelle que votre livre « Beaumarchais, un aventurier de la liberté » sortira la semaine prochaine, le 14 août, aux éditions Stock France Culture, et qu'on peut vous entendre tous cet été sur France Culture dans vos aventures beaumarchaisiennes. Cette émission a été préparée par Élodie Royer et Marion Philippe, avec l'aide de Maëlane Loaec. Elle a été réalisée par Clément Baudet, avec l'aide de Lucie Lemarchand. À la programmation musicale Elsa Béranger et à la prise de son aujourd'hui Paul Percheron. Après le journal, vous avez rendez-vous avec Yves Decamp pour le téléphone sonne. Bonne soirée sur France Inter.